Il est 4h à Paris, 3h en temps universel. Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Voici votre journal.
Jérôme Bastion.
Au sommaire de cette édition, au Proche-Orient tout d'abord, alors que les négociations entre Israël et le Hamas sont dans l'impasse et que tout espoir de cesser le feu paraît hors de portée, le Qatar jette l'éponge et suspend sa médiation dans ce conflit, incertitude concernant le bureau du Hamas à Doha. Aux États-Unis, de nombreux Afro-Américains ont reçu de mystérieux textos ou SMS racistes, et ce dans plus d'une vingtaine d'États, après l'élection de Donald Trump, notamment à New York où une enquête a été ouverte, une campagne préméditée, dit la gouverneure. Le chef de la diplomatie européenne a tenu à rendre visite fort symboliquement à Kiev ce samedi, alors que l'inquiétude gagne les dirigeants ukrainiens et leurs partenaires européens sur la poursuite par Washington du soutien à l'Ukraine. Josep Borrell a rappelé le soutien indéfectible des 27. Et tout d'abord, donc, au Proche-Orient, les autorités de l'Émirat du Qatar ont confirmé samedi la suspension de leur médiation entre Israël et le Hamas palestinien. Et ce, après des mois d'efforts diplomatiques infructueux pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Avec les États-Unis et l'Égypte, le Qatar avait en effet mené une médiation, la seule, la première et la dernière, menant à une trêve en novembre 2023. Elle avait duré une semaine et avait permis la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens, mais depuis plus rien. L'Émirat du Golfe hébergeait aussi, jusqu'ici, le bureau de l'organisation palestinienne, responsable de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, un bureau du Hamas qui n'aurait plus de raison d'être, selon certaines sources qatariennes. Depuis plusieurs mois, les États-Unis se montraient en tout cas insistants pour que Doha n'accueille plus le Hamas sur son sol. Je vous propose d'écouter à ce propos Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Les Américains ont demandé aux Qataris de fermer le bureau du Hamas parce que le bureau tire sa légitimité de des négociations, de la continuation des négociations. Les Américains sont sonnés, mais surtout l'administration Biden, puisqu'elle n'a pas réussi à finir son mandat, au moins avec un accord avec les Israéliens et avec le Hamas. Je pense que cette conclusion les a poussés à demander la fermeture du bureau, qui ne date pas d'hier, mais date de plusieurs mois, puisque pour les États-Unis, le bureau du Hamas ouvert à Doha n'a aucun sens puisqu'il ne sert à rien. Il ne faut pas oublier que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par les Américains et plusieurs États européens.
Hasni Abidi était interrogé par Pierre Olivier. Et à prendre en compte toutefois cette mise au point du porte-parole des affaires étrangères du Qatar, Majed Ansari, il a également rejeté les informations de cette source diplomatique citée par Pierre Olivier qui avait laissé entendre que le Qatar pourrait fermer le bureau du Hamas à Doha. Le bureau du Hamas donc qui reste pour l'instant en territoire du Qatar. Aux États-Unis, où de nombreux Afro-Américains ont reçu des messages racistes sur leur téléphone dans une vingtaine d'États, c'est la perplexité. Juste après la victoire de Donald Trump, les autorités ont donc annoncé l'ouverture d'enquêtes pour tenter de démasquer les expéditeurs de ces mystérieux envois. Reste à savoir également, Lubna Anaki, comment les victimes ont été identifiées et ciblées.
Il est clair que les auteurs de cette campagne ont bien préparé leur coup. C'est ce qu'a expliqué la gouverneure de New York qui a ordonné l'ouverture d'une enquête après que des centaines de New Yorkais afro-américains ont reçu des textos ou des emails racistes. Des messages leur disant, je cite, qu'une fourgonnette viendrait les chercher pour aller cultiver le coton sur la plantation la plus proche. Des messages similaires ont également été reçus par de nombreux afro-américains dans une vingtaine d'autres états de la côte est à la côte ouest, donnant lieu là aussi à des enquêtes du département de la justice et du FBI. Et l'une des questions principales que se posent les enquêteurs est comment les auteurs de ces messages ont-ils pu cibler uniquement des personnes afro-américaines s'adressant à elles parfois directement par leur prénom. Certains experts évoquent la possibilité de données personnelles achetées sur Internet. Les responsables seraient également passés par des services qui permettent d'envoyer des textos ou des emails à partir de numéros de téléphone anonymisés. Cette affaire qui fait beaucoup de bruit a provoqué provoquer la colère des associations de lutte contre le racisme qui estiment que la victoire de Donald Trump et sa rhétorique ouvertement raciste ne fera qu'encourager davantage ce genre d'incident. Loubna Anaki, New York, RFI.
Les États-Unis où la transition vers la présidence Donald Trump se prépare, le républicain sera reçu mercredi dans le bureau ovale par Joe Biden qui avait promis une passation de pouvoir pacifique. La transition qui commence également à s'exprimer avec la composition de la future administration Trump. RFI, 4h, 5 minutes et 30 secondes ici à Paris, 5h, 5 minutes et 30 secondes à Kiev, où le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, était en visite ce samedi pour assurer aux Ukrainiens du soutien indéfectible de Bruxelles. Et ce, alors que l'élection de Donald Trump aux États-Unis inquiète en Ukraine et en Europe sur la suite que de ce conflit pourrait prendre comme tournure. Josep Borrell, qui doit quitter ses fonctions le mois prochain, mais qui a maintenu son cap avant de mettre les voiles.
C'est une visite avec un objectif clair, émanant directement du Conseil européen qui s'est tenu à Budapest et après l'élection américaine. L'objectif clair de cette visite, c'est de souligner le soutien de l'Europe à l'Ukraine. Ce soutien reste inaltérable. Ce soutien est absolument indispensable pour que vous puissiez continuer à vous défendre contre l'agression russe.
Against Russia, aggression.
C'était donc Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne. Quant au commandant en chef des forces armées ukrainiennes, il a fait état samedi de la présence de troupes nord-coréennes prêtes à combattre aux côtés des forces russes, a-t-il martelé. En Corée du Sud, le trafic naval et aérien perturbé par des brouillages GPS dont la Corée du Nord est à l'origine, affirme l'armée de Corée du Sud. Depuis deux jours, les signaux et les appareils de navigation sont difficilement utilisables sur les côtes sud-coréennes. C'est Lio Fioretti.
Des perturbations qui n'ont heureusement pas causé d'accident. Le commandement militaire sud-coréen a prévenu tous les navires et avions de la zone de ne pas se reposer uniquement sur leur GPS pour éviter les drames. Les infrastructures militaires, elles, n'ont pas été touchées par ce brouillage. Ce n'est pas la première fois que le régime nord-coréen effectue des opérations similaires. En juin dernier, les signaux GPS au nord-ouest de la Corée du Sud avaient également été brouillés pendant plusieurs jours. Difficile de savoir quelles sont les motivations du régime derrière ces opérations, mais elles réussissent tout de même à inquiéter les Sud-Coréens des capacités nord-coréennes à perturber leur quotidien et leur sécurité. L'Organisation de l'aviation civile internationale a elle aussi exprimé ses sérieuses inquiétudes quant aux opérations de brouillage nord-coréennes. Le chef d'état-major sud-coréen a précisé que Pyongyang serait tenu responsable de ces actes. C'est Leo Fioretti, Séoul, RFI.
Et puis à l'instant, on apprend que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé des raids contre Sana'a, la capitale du Yémen, le gouvernorat d'Amran et d'autres régions, selon la chaîne de télévision du mouvement rebelle Houthi Al-Massira, ainsi que des habitants sur place. Pour finir, en France, les vendanges s'annoncent mauvaises cette année. Les chiffres ne sont pas encore définitifs, mais d'après le ministère de l'Agriculture, la production viticole pourrait reculer de 23% en 2024 par rapport à l'année précédente. Donc, trop d'intempéries météo, trop de maladies dans les vignes, tous les vins français sont concernés, explique Jérôme Bauer, vigneron et président de la Confédération nationale des appellations d'origine contrôlée.
Intempéries, maladies et sécheresse pour le Languedoc et le Roussillon. C'est plus la sécheresse qui a créé de grosses pertes de récoltes, hein, puisque dans certains endroits, il n'a quasiment pas plu depuis quasiment deux ans maintenant. La Bourgogne a eu de graves incidents climatiques, enfin comme un petit peu partout en France, j'ai envie de dire. C'est même plus que de la morosité, je pense, hein. C'est une inquiétude énorme rencontrée par les vignerons aujourd'hui, parce qu'on doit faire face à une crise qui est multifactorielle, à la fois avec les incidences climatiques et économiques que ça cause sur nos entreprises, mais aussi la conjoncture de la baisse de la consommation de vin en France, en Europe et dans le monde, et les problèmes de géopolitique qu'on peut rencontrer un petit peu partout qui freinent nos exportations. J'ai toujours l'habitude de dire que la fin des vendanges sont toujours une joie et un soulagement pour le vigneron. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le moral, il n'est pas au beau fixe du tout, quoi. Et on est très, très inquiet pour l'avenir de la filière et l'avenir de nombreuses exploitations en France.
Le vigneron Jérôme Bauer, interrogé par Alexis Bédu. Et il est 4h10 sur RFI.